Vous êtes toujours avec nous sur Médien, sur Médien.com et notre application Médien Radio. Merci à vous de votre fidélité. Aujourd'hui, on fait le point sur l'un des cancers les plus redoutés et pour cause. Il se développerait durant plusieurs mois, voire plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes. Vous l'aurez compris. Peut-être, on parle du cancer du pancréas. Et pour en parler aujourd'hui, avec nous, professeur Ali Tahri, bonjour.
Bonjour, Amine.
Vous êtes professeur en oncologie à Marrakech, je le rappelle. Alors d'abord, le cancer du pancréas, c'est quoi?
Alors, le cancer du pancréas, c'est un développement anormal des cellules pancréatiques, surtout du pancréas exocrine, qui vont se développer d'une manière, c'est-à-dire anarchique,
oui.
Et qui vont constituer ce qu'on appelle une tumeur du pancréas, qui va donner des dégâts localement, et par la suite, les cellules vont se développer pour partir au niveau des ganglions, au niveau des organes à distance, qu'on appelle communément les métastases.
Je parlais des signes qui tardent donc à apparaître. Quels seraient ces signes et comment reconnaître la maladie, justement?
Alors en fait, effectivement, les signes du cancer du pancréas, c'est des signes assez tardifs, et parfois, le diagnostic, il est aussi un peu retardé, malgré l'apparition des symptômes, puisque on a des symptômes qui sont un peu bâtards. On a des douleurs au niveau épigastrique et au niveau dorsal. Il y a certains qui considèrent ça comme une sciatique et comme des douleurs gastriques. Et bien sûr, il faut faire le bilan assez rapidement pour se rendre compte que finalement, il s'agit malheureusement d'un cancer du pancréas. Il y a aussi un ictère qui peut apparaître à un stade avancé de la maladie par compression des voies biliaires. L'ictère, c'est la jaunisse, c'est-à-dire qu'on a des yeux jaunes, la peau qui est jaune. Et normalement, c'est un ictère qu'on appelle médicalement cholestatique, c'est-à-dire qu'on a des urines foncées et oui. Des selles décolorées, justement liées à la compression de ces voies biliaires. On peut avoir aussi un prurite lié à l'ictère. On a surtout la fatigue, l'altération de sa générale, la dénutrition. Et au début, c'est des signes qui n'orientent pas forcément vers un cancer du pancréas.
D'accord. Alors, quelles peuvent en être les causes, professeur Tahri?
Alors, le cancer du pancréas est une maladie multifactorielle. Il y a des facteurs de risque. Et le facteur de risque majeur est encore une fois le tabac. C'est le facteur majeur du cancer du pancréas. À côté du tabac, il y a l'obésité, il y a le diabète, qui peuvent aussi être des facteurs de risque. Il y a des facteurs génétiques familiales. Il y a dans 5 à 10%, il y a des familles de cancer du pancréas qui font beaucoup de cancer. De pancréas familial, mais c'est surtout, encore une fois, le tabac qui est le facteur de risque majeur de ce cancer.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'hérédité, professeur Tahri?
Oui, effectivement, dans 5 à 10%, il y a des cas familiaux, et là, on peut faire même des consultations oncogénétiques pour dépister ces cas familiaux, et bien sûr, surveiller de manière très rapprochée les personnes qui sont à risque, qui ont ce risque génétique familial.
Professeur Ali Tahri, je rappelle que vous êtes professeur en oncologie. Quels seraient les risques liés à ce cancer à moyen et à long terme?
En fait, cette maladie, c'est une maladie qui est, comme vous l'avez bien dit à l'introduction, c'est une maladie grave, c'est une maladie qui est mortelle. C'est-à-dire les risques, si jamais on ne fait pas un diagnostic précoce,
oui.
Et malheureusement, on découvre souvent la maladie à un stade avancé, c'est qu'on le découvre à un stade de maladie métastatique, c'est-à-dire qu'on a des métastases au niveau du foie, au niveau du poumon, de l'os et des autres organes. Et à ce moment-là, on n'est plus dans un stade curatif, on est malheureusement dans un stade palliatif avec des traitements, palliatifs et une espérance de vie qui est quand même assez réduite. Donc quand on est dans un stade 1 qu'on peut opérer, c'est-à-dire on a des survies qui peuvent être assez importantes, on a des survies qui peuvent aller à 70% à 5 ans. Mais quand on est dans des stades avancés, la survie est... C'est-à-dire il est faible de quelques mois, voire quelques années, parce qu'on est dans une maladie qui est très étendue et on est sur un traitement palliatif. Quoique avec les traitements actuels, on en parlera,
oui.
La survie a tendance, heureusement, à s'améliorer.
Alors justement, on parlera de ce progrès thérapeutique, on parlera de traitement et de chirurgie. Juste avant, comment posez-vous le diagnostic, professeur?
Alors, une fois qu'on a un patient qui a les symptômes, l'ictère, la douleur et tout ça, on fait bien sûr un bilan d'extension pour savoir, pour découvrir qu'il y a la tumeur et savoir si son étendue. Alors, on commence par une écho abdominale qui va nous montrer un pancréas qui est dysmorphique. On va faire un scanner thoraco-abdominopelvien pour voir et le pancréas, mais aussi le foie et le poumon. On fait aussi une biliérène pour voir les voies biliaires et on fait une échoendoscopie. Bien sûr, tout ça, on ne le fait pas tous, on fait un ou l'autre, ou c'est-à-dire l'association de certains examens. L'échoendoscopie qui permet de voir, c'est-à-dire, et les voies biliaires et l'état, c'est-à-dire du pancréas, et faire éventuellement des biopsies. Le diagnostic est fait évidemment par histologie, comme tous les cancers d'ailleurs, en faisant des biopsies, soit par échoendoscopie, soit par biopsie scano et éco-guidée si c'est faisable, c'est-à-dire on fait introduire une aiguille au niveau de la lésion tumorale et on prend un petit fragment qu'on analyse, soit parfois on est obligé de faire des biopsies chirurgicales quand ces examens-là n'arrivent pas à voir le diagnostic ou s'ils ne sont pas faisables.
D'accord. Alors justement, vous parliez de ces progrès thérapeutiques. Comment ça se passe niveau traitement en 2022, donc, professeur Tahri?
Alors, le cancer du pancréas, une fois qu'on a fait ce bilan, c'est-à-dire diagnostic et ce bilan d'extension, il faut savoir déjà sur le plan histologique, on n'en a pas parlé, que c'est l'adénocarcinome qui est le type histologique le plus fréquent, mais on a parfois des carcinomes neuroendocrines ou d'autres types histologiques qui sont plus rares. Parenthèse fermée, quand on a un cancer qui est localisé, le traitement est chirurgical. On fait ce qu'on appelle une splénopancréatectomie céphalique, c'est-à-dire quand on a une tumeur au niveau de la tête du pancréas, qui est le plus fréquent, on enlève cette tumeur avec bien sûr des marges de sécurité. On peut faire aussi une pancréatectomie caudale, une splénopancréatectomie caudale quand on a une tumeur au niveau de la queue du pancréas. Parfois, on fait une pancréatectomie totale, mais ça, bien sûr, suppose que la maladie est localisée. On fait bien sûr par la suite une petite chimiothérapie adjuvante pour réduire le risque de rechute et normalement, c'est-à-dire le pronostic est bon dans ces cas-là. Mais malheureusement, ces cancers localisés du pancréas, je dirais, ça représente 20-30%, pas plus. Plus de 2/3 des cas sont des maladies soit localement avancées, c'est-à-dire qui dépassent, qui ne sont pas chirurgicaux ou qui sont métastatiques. Et bien sûr, là, on est dans un traitement, comme on a dit, palliatif. Et ces cas-là, on peut éventuellement les opérer parce que le problème du pancréas, c'est qu'il est qu'il est niché entre, c'est-à-dire à côté de l'intestin grêle, mais aussi avec les voies biliaires, on peut avoir des troubles de transit et on peut avoir un ictère qui est un des symptômes de cette maladie. Et on fait ce qu'on appelle une dérivation ou une double dérivation bilio-digestive pour justement court-circuiter la tumeur et permettre à la bile de passer pour que le patient déjaunisse. Et bien sûr, on fait aussi parfois, quand c'est nécessaire, une dérivation digestive pour permettre, bien sûr, le transit intestinal correct. Tout ça, bien évidemment, ce n'est pas thérapeutique à ce stade-là, c'est seulement symptomatique et palliatif. Le traitement dans ces cas-là est essentiellement de la chimiothérapie. Il y a plusieurs protocoles de chimiothérapie adaptés à ce type de cancer, et bien sûr, en fonction du type histologique aussi. Il y a la radiothérapie qu'on associe parfois, et l'actualité, la nouveauté aussi, l'immunothérapie qu'on utilise dans certains cas, on dit bien évidemment l'indication, et qui peut donner aussi des résultats spectaculaires, bien sûr, dans ces cas-là.
Donc c'est vraiment du cas par cas, professeur Tahri.
Effectivement, maintenant, pour tous les cancers d'ailleurs, c'est un traitement à la carte, c'est un traitement personnalisé, en fonction de l'histologie, en fonction de la biologie moléculaire, en fonction de la génétique, bien sûr, et en association, en fonction de l'état du patient, de ses comorbidités, de son état général. Il y a une évaluation totale du patient qui est faite. Et bien sûr, c'est un traitement qui est personnalisé et adapté au cas par cas.
Alors, est-ce que vous voyez arriver chez vous, professeur Tahri, des cas jeunes, donc atteints par la maladie?
L'âge de prédilection du cancer du pancréas est de 60-70 ans, je dirais. Mais effectivement, on en voit. Ce n'est pas ce qui est le plus fréquent, heureusement.
Oui.
Mais on en voit des cas à 40 ans. C'est-à-dire 45 ans, il y a des cas, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement, mais c'est pas, heureusement, c'est pas les cas les plus fréquents.
D'accord.
Ça reste quand même assez rare. Les cas les plus fréquents, c'est à 60-70 ans, c'est-à-dire l'âge moyen,
voire
plus âgé.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on peut prévenir cette maladie, professeur Tahri?
Malheureusement, il n'y a pas de dépistage dans le cancer du pancréas. Ce qu'il y a, c'est les constellations oncogénétiques chez les gens qui ont des cancers de pancréas dans la famille, c'est-à-dire plusieurs cas, bien évidemment, on fait des consultations à la recherche de gènes prédisposants, c'est-à-dire à ce cancer-là, et à ce moment-là, on fait une surveillance rapprochée si ces gens-là. Mais ce que je conseillerais aux gens, c'est bien évidemment, quand il y a des symptômes, même parfois banaux, mais qui persistent dans le temps, d'aller consulter. Et bien sûr, les médecins doivent toujours avoir à l'esprit cette possibilité-là. Et dès qu'on fait un petit bilan, une échographie, un scanner, on voit qu'il y a un souci au niveau du pancréas, ça nous pousse à ce moment-là, c'est-à-dire à approfondir les investigations et trouver le cas échéant, c'est-à-dire la tumeur du pancréas.
D'accord. Alors maintenant, si la maladie est là, est diagnostiquée, que conseillerez-vous à toutes ces personnes qui nous écoutent?
Alors, si la maladie est là, ce que je conseillerais aux gens, c'est de faire vite d'abord, parce que une tumeur localisée, s'il n'est pas traitée dans le temps, va devenir localement avancée, voire métastatique, de consulter rapidement, de suivre l'avis du médecin traitant. Là, on a des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires de cancérologie dans pratiquement toutes les villes, avec c'est-à-dire des discussions de cas, au cas par cas, comme tu as dit, avec les chirurgiens, les anatomopathologistes, les radiologues, les oncologues, et j'en passe, et les autres spécialistes, pour trouver la meilleure attitude à ce patient, le meilleur traitement possible avec la chirurgie, la chimio, la radiothérapie, et aussi la thérapie ciblée, l'immunothérapie. Et bien sûr, c'est encore une fois des traitements personnalisés. Et il faut souligner que quand on a un cancer localisé, on est dans une option curative, c'est-à-dire pour traiter le patient. Mais quand on a un cancer localement avancé ou métastatique, on est dans une option palliative de stabilisation de la maladie et pour permettre au patient d'avoir la meilleure qualité de vie et c'est-à-dire lui c'est-à-dire proposer la meilleure espérance de vie possible.
D'accord. Alors, on parle de ce moral. On dit que c'est très, très important de garder un bon moral. On dit même que c'est une partie du traitement. Est-ce que vous confirmez cela, professeur Tahaleh?
Bien évidemment, madame, c'est une très, très bonne remarque et je te remercie de m'avoir rappelé cet élément-là. Le côté psychologique dans la maladie cancéreuse en général est très, très important. Et ça, on le voit dans la pratique de tous les jours. Les patients, ils sont à la limite insouciants et c'est-à-dire qu'ils sont, c'est-à-dire qui acceptent le destin et qui vivent, acceptent leur maladie, ils vivent avec elle. On a souvent d'excellents résultats thérapeutiques, même pour des maladies très avancées. L'inverse est aussi vrai, malheureusement. Quand on a des gens qui sont très dépressifs, qui ont très peur pour des maladies, petites tumeurs, avec un très bon pronostic, parfois ça se passe pas très très bien, justement à cause de ce stress qui est qui est connu. Le stress permet, c'est-à-dire de réduire l'immunité et de facto permettre aux cellules tumorales de prendre plus d'ampleur, et c'est-à-dire d'augmenter la maladie et de donner des rechutes. C'est pour ça que maintenant, dans la majorité des centres d'oncologie, il y a des psycho-oncologues qui vont suivre les malades, qui vont les coacher,
les
pour justement les accompagner. Parfois même, on passe à des psychiatres avec des traitements antidépresseurs et des anxiolytiques pour justement avoir une bonne, pour permettre aux patients d'accepter leur maladie et d'essayer, c'est-à-dire de vivre bien leur maladie, ce qui permettra par la suite, derrière, d'avoir de bons résultats thérapeutiques.
Et on leur souhaite une très très bonne année. Bonne année à vous également, professeur Ali Tahaleh. Je rappelle que vous êtes professeur en oncologie à Marrakech. Merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation sur Média.
Merci, madame, et bonne année tout le monde.
Merci à vous, et c'est un entretien réécoutable, bien sûr, sur notre site Média.com.